Bonjour à toutes et à tous. Dans le mag, aujourd'hui, on va s'intéresser à un bel ouvrage, du gros travail, du bon travail, un devoir de mémoire, j'imagine aussi. Et c'est l'auteur de ce livre que j'accueille avec moi dans les studios, monsieur Simon Masbaum. Bonjour, monsieur Masbaum.
Bonjour.
Alors, Simon Masbaum, vous êtes auteur. Vous avez travaillé au livre que j'ai entre les mains, un beau pavé, hein, mais c'est de grande, grande qualité. On va y revenir parce que vraiment, c'est du grand, grand travail. Hein. 570 pages, beaucoup de documents. Le titre de ce livre, monsieur Masbaum, c'est Aveyron, Drancy, Auschwitz. Sous-titre 1940-1944, parcours individuel par commune des 391 juifs déportés ayant vécu en Aveyron. Voilà, monsieur Masbaum. Si vous avez décidé de publier ce livre, on va y revenir, vous l'avez coédité, c'est parce que vous êtes président d'une association en Aveyron qui s'appelle l'Association pour la mémoire des déportés juifs de l'Aveyron, évidemment. C'est, oui, pavé, mais pour, dans ma bouche, c'est pas du tout péjoratif. Hein, 580 pages. Vous êtes lancé là, dans cette aventure il y a combien de temps?
Dans cette aventure directement liée à l'ouvrage, ça a commencé en 2015 par des visites dans l'essentiel des archives qui correspondaient au trajet de ces personnes, y compris en Belgique, en Hollande et également en petite partie en Allemagne, à Bad Arolsen.
Alors, parce que c'est vraiment, je ne suis pas du tout spécialiste, mais c'est du travail d'historien. Hein. Oui, j'imagine que vous avez dû passer du temps dans des caves à retrouver des archives, à feuilleter des dossiers. Vous n'avez peut-être pas fait ça tout seul, parce que j'imagine que certain nombre des documents que vous nous présentez dans cet ouvrage, ils n'étaient pas tous en Aveyron.
Alors, l'essentiel des documents vient de France. Une grosse partie vient des archives du service des victimes de guerre à Anderlecht, des archives générales du Royaume de Belgique, puisqu'une grande partie de ceux qui étaient ici venaient de Belgique, expulsés, et puis une partie très importante, naturellement, des archives départementales, qui correspond à une grande partie des documents que j'ai consultés et accumulés.
Alors, ce livre, avec son titre complet, hein, le parcours individuel par commune des 391 juifs déportés ayant vécu en Aveyron, oui, ça a une forme un petit peu de dictionnaire, hein, puisqu'on prend les communes du département une, par ordre alphabétique, et dans chacune de ces communes, bah, vous avez recensé tous les juifs qui sont passés par ces communes ou qui ont vécu parfois, qui ont ensuite été déportés avec, vous racontez à travers des mots, leur vie, leur parcours de vie qui pour la plupart débute bien bien loin de l'Aveyron et parfois aussi bien longtemps avant la Seconde Guerre mondiale. Et puis de très nombreux documents, des photos, des lettres, des documents administratifs. C'est, je ne sais pas si vous avez fait le compte, mais c'est impressionnant.
Alors j'ai fait le compte, c'est environ 45 000 documents que j'ai donc accumulés pendant ces 5 années de recherche qui m'ont permis ensuite, difficilement j'avoue, de faire un choix pour que seulement environ 800 d'entre eux paraissent dans ce livre comme étant des éléments, de mon point de vue, emblématiques ou symboliques.
Alors un travail très très important, hein, que vous avez réalisé, Simon Masbaum, pour l'histoire, hein, pas que pour l'histoire d'ailleurs, pour chacun d'entre nous, parce que même quand on n'a pas été forcément concerné de près ou de loin, bah, c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, puis de rentrer dans les vies de ces familles aussi, hein, ce que vous nous permettez de revivre leur parcours pour la plupart d'entre elles, vous mettez tout ce que vous savez. Un livre qui est d'ailleurs, je le précise, ça a son importance, est préfacé par Serge Klarsfeld, bien connu, est-ce qu'on voit aussi, vous pouvez nous en dire deux mots pour ceux qui débarquent sur, en France ces dernières années.
Oui. Serge Klarsfeld est devenu un ami, en plus un ami très proche, c'est une grande âme. Et il m'a fait l'honneur de cette préface poétique, assez personnelle. Et c'est un homme que j'ai connu il y a maintenant de nombreuses années, lorsqu'il m'a demandé, lors d'une rencontre au hasard, de si je pouvais, puisque j'habitais en Aveyron, j'étais au début des années 90, si je pouvais vérifier une cote aux archives départementales sur laquelle il avait quelques doutes. Donc je me suis exécuté, et c'est à partir de ce déclic que mes recherches ont commencé, lorsque je me suis rendu compte de l'importance colossale du nombre d'archives qu'il y avait en Aveyron.
Très bien. Vous avez donc parcouru, travaillé et ordonné pour nous les présenter dans ce livre « Aveyron, Drancy, Auschwitz, parcours individuel par commune des 391 juifs déportés ayant vécu en Aveyron ». Alors je reviens sur le titre pour rentrer dans le corps du livre. Le parcours des 391 juifs déportés ayant vécu en Aveyron. Alors ça veut dire que là-dedans, Il y a des Aveyronnais, ce qu'on appelle, des Juifs qui étaient là en Aveyron, vivaient là depuis un certain temps. Et puis beaucoup, en fait, la grande majorité, hein, qui en fait, n'étaient pas ce qu'on appelle des Aveyronnais, hein, mais qui se sont retrouvés en Aveyron face à la situation, la Seconde Guerre mondiale, l'exode, l'exil. C'est ça la plupart des Aveyronnais, des Juifs Aveyronnais déportés.
Absolument, c'est exactement ce que vous dites. En fait, comme point de fixation ayant permis à des Juifs du nord de la France de venir en Aveyron au moment, surtout en 39, en déclaration de la guerre, ça correspond à 4 ou 5 familles juives non observantes qui étaient en Aveyron.
Non observantes, ça veut dire quoi? Non pratiquantes. Non observantes, ça veut dire.
C'est-à-dire qu'ils ne pratiquaient pas le culte.
D'accord.
Et qui étaient en Aveyron en règle générale depuis le début. On va dire depuis surtout la première guerre mondiale. Ils avaient chacun fui le pays et étaient arrivés en Aveyron souvent par hasard.
Et beaucoup venaient des pays de l'Est, en particulier. 391 Juifs déportés ayant vécu en Aveyron. À votre connaissance, vous pensez que certaines personnes vous ont échappé ou certaines autres, vous n'avez pas assez d'indices pour pouvoir le mettre dans le livre, ou pour vous, vous êtes exhaustif, vous êtes complet, le travail est fait, monsieur Masbaum?
Exhaustif, j'espère.
Ouais.
Bon, par contre, j'ai simplement un doute sur une personne qui était, mais j'ai aucun document à part le fait qu'il soit indiqué sur un document au mémorial de la Shoah, mais sans certitude. Et c'est à Laval, la Roque-Verrière.
Oui.
Mais donc, il n'est pas dans le livre parce que je n'ai aucun document et aucune certitude. Pour le reste, je n'ai que des documents et que des certitudes.
Bah oui. J'ai consulté votre livre avant de se retrouver avec ces communes par ordre alphabétique et les Juifs qui sont passés par ces communes plus ou moins longtemps avant d'être déportés à Auschwitz. Hein. Une des choses qui m'a surprise, parce que il y a une introduction avant de trouver la liste des communes et des personnes. Vous nous recontextualisez un petit peu l'ensemble, la Seconde Guerre mondiale, le contexte général historique, et puis vous nous proposez aussi des chiffres statistiques, parce que là on a 391 Juifs déportés ayant vécu en Aveyron, mais bon, je peux pas comparer avec d'autres départements, bien sûr. Et à ma grande surprise, monsieur Masbaum, mais ça va pas faire forcément plaisir à ceux qui nous écoutent, les Juifs en Aveyron, ils étaient plutôt moins à l'abri qu'ailleurs, si on regarde les statistiques nationales. Hein.
Absolument, c'est ce que, à mon grand étonnement, comme le vôtre, c'est à la fin de l'ouvrage, lorsque je me suis attelé à faire ce minimum de statistiques nécessaires, je me suis rendu compte que si on faisait, alors naturellement c'est l'Aveyron, une proportionnalité par rapport à ce qui avait été fait en termes de statistiques sur l'ensemble de la France, on était hélas largement au-dessus. En moyenne en France, d'après mes souvenirs, c'est environ 25% de la population juive qui fut déportée. En Aveyron, on en est aux alentours de 30-35%. 92% de la population juive recensée, je dis bien recensée, a été déportée.
Et alors comment vous expliquez ça? C'est le zèle de l'administration locale, c'est quoi?
Alors c'est le zèle de l'administration locale, c'est surtout le zèle d'un préfet, le préfet Marion, qui, au-delà du fait que c'était un soutien du régime de Vichy, de Pétain, ancien militaire, il était extrêmement zélé et profondément antisémite. Mmh. Certains documents montrent même qu'après certaines rafles, là où certains autres préfets ont lâché prise, eh bien lui, il a continué, il a donné des instructions pour continuer jusqu'au dernier, jusqu'au mois d'octobre 42 par exemple. Il n'a cessé d'encourager ses troupes, entre guillemets, à continuer ses rafles. Mmh. Il y a eu trois grosses rafles qui n'ont pas empêché d'autres petite rafle. Mmh. Il y a eu une rafle rapidement les 26 et 27 août 1942 qui a concerné essentiellement les familles, enfants, femmes, vieillards, hommes, etc. Ensuite, au mois de février, en gros du 18 au 24 février, une autre rafle qui a concerné environ 70, même précisément 70 hommes uniquement, en capacité de travailler. Cette notion était importante. Ouais. Juste pour l'anecdote tragique, elle était liée à un assassinat ou un attentat plutôt de la résistance de deux officiers allemands, à Paris. Et Vichy a demandé ce que les 2000 otages demandés par Vichy ne soient que des Juifs, demandés par les Allemands ne soient que des Juifs. Et donc en Aveyron, c'était environ 70 personnes. Toutes ces personnes, c'est le seul cas, n'ont pas été déportés à Auschwitz, mais à Majdanek et Sobibor, mmh. qui sont des camps d'extermination mmh. spécifiques dans le sud-est de la Pologne, et immédiatement à leur arrivée, alors que c'était les hommes dans la force de l'âge, ils ont été gazés. Et la dernière grosse rafle, mmh. c'est celle du mois du 22 avril 1944 à Rodez, où 37 personnes ont été arrêtées.
Ces 391 juifs déportés ayant vécu en Aveyron, dont vous nous permettez de revivre une partie de la vie grâce à ces documents, puis surtout à prendre connaissance de leur existence, déjà rien que ça, hein, parce que certains sont passés quelques jours parfois simplement en Aveyron, et la majorité d'ailleurs n'était pas aveyronnais, comme je disais un petit peu plus tôt. Comment ces juifs se sont retrouvés en Aveyron? Moi j'ai de la famille à l'époque qui n'était pas juive, mais bon, qui a subi l'exode, ils ont quitté la région parisienne, ils sont partis... dans la zone à l'époque libre, dans des endroits où ils avaient de la famille. Bon là, non, ça arrive quasiment pas là dans nos cas ici en Aveyron. Comment ils se sont retrouvés ici, en Aveyron, ces gens-là?
Alors pour quelques cas tout à l'heure dont j'ai fait allusion, de familles qui vivaient déjà ici, leur famille qui proche, la parenté, les a rejoints. Ça fut le cas pour la famille Herzog, Rosenfeld, bijoutier, ouais. horloger à Rodez. La famille Fisch, lui, il était artisan peintre. Sa famille, la famille Bitz, l'a rejoint. Et puis également la famille Gottesmann à Villefranche-de-Rouergue. Ils étaient petits commerçants de petites boutiques de tailleurs. C'est les trois seuls cas. Pour la totalité, c'est en gros, une grande partie des gens, des juifs expulsés de Belgique, qui étaient d'origine polonaise, prussienne, autrichienne, allemande. Et puis ensuite, une grande partie de juifs qui s'étaient dans un premier temps réfugiés dans les années, en 1939, dans la zone sud, enfin, en sud de la France, à l'époque, il n'y avait pas de zone, qui ensuite, à partir de 1940, les différents préfets les ont expulsés vers l'Aveyron. Donc, c'est environ 250 à 300 personnes, et puis une autre partie, un peu plus tard, environ 150 personnes qui ont été expulsées des côtes de la Méditerranée, lorsque les Allemands ont franchi la ligne de démarcation pour occuper ouais. la zone dite libre, qui est devenue zone sud. Mmh. Et à ce moment-là, il y a eu environ 150 juifs qui ont été assignés à résidence. Sachant que tous les juifs, sans exception, qu'ils aient eu ou pas de la famille, qu'ils soient arrivés ici par hasard ou orientés, entre guillemets, ont tous été assignés à résidence. Hein. Donc contraints
de rester. Ils n'étaient pas en liberté
Ils n'étaient pas en liberté. Ils avaient l'obligation à minima d'aller pointer une à deux fois par semaine dans les commissariats quand ils étaient dans les villes, et une à deux fois, voire quelquefois, trois fois par semaine, à la gendarmerie lorsqu'ils étaient à la campagne.
Mais assignés en résidence, parce qu'il n'y avait pas de... Enfin, je ne sais pas, mais il n'y avait pas de camp d'internement ou d'un peu de rétention en Aveyron. Donc ils étaient assignés où?
Alors ils étaient assignés à l'endroit de leur domicile.
D'accord.
C'était l'assignation définitive. Et puis il n'y avait pas de camp. Alors, c'est une notion un peu compliquée. En Aveyron, il y a le seul camp qu'il y a eu, c'est le camp de Gages, qui est juste à côté de Rodez.
Ouais.
En fait, c'était un bâtiment qui a été utilisé pour que les ouvriers obligés d'intégrer un groupement de travailleurs étrangers, c'est une notion un peu compliquée, puissent être à disposition de leurs employeurs, et donc étaient hébergés, entre guillemets, dans ce lieu. Il s'appelait le camp de Gages, mais ce n'était pas, comme on peut l'imaginer, des camps comme il y en eut dans beaucoup d'autres départements, que ce soit dans le Tarn, à Brenz, à Rieucos, ou bien que ce soit ailleurs, à Toulouse, ou bien à Rivesaltes. Enfin bref, dans tous les territoires du sud de la France, seul l'Aveyron n'avait pas ce type de camp.
Le titre du livre, c'est « Aveyron, Drancy, Auschwitz ». Bon, alors évidemment, Drancy, tout le monde connaît en France le centre, oui, un peu de tri, hein, je vais le dire comme ça.
Oui,
bon,
oui.
Auschwitz, évidemment, c'est peut-être le nom des plus connus des camps concentration allemands. Mais ça veut dire, il y avait un circuit qui faisait que les Aveyronnais ne pouvaient aboutir qu'à Auschwitz, parce que des camps, il y en a eu des dizaines, hein, en Allemagne, en Pologne, dans tout le Reich allemand. Auschwitz, c'était la destination obligatoire? Et pour quelle raison?
Oui, pour... Je ne suis pas spécifique aux Aveyronnais,
ouais.
mais c'était la destination obligatoire de beaucoup de juifs de France.
D'accord.
Hein, on va dire que sur les 76 000 juifs qui ont été déportés de France, une grande, grande, grande majorité d'entre eux l'ont été à Auschwitz, Birkenau, Auschwitz, Monowitz ou Auschwitz II. Donc en fait, c'est un énorme camp, Auschwitz, qui est divisé en trois, une partie industrielle d'extermination, mmh. une partie industrielle de travail,
d'exploitation,
de mort lente, mmh. et puis une autre partie liée à l'industrie aussi. Voilà les trois camps. Une très petite partie des Juifs qui ont été arrêtés et déportés l'ont été, comme tout à l'heure je l'évoquais, à l'issue d'une rafle, donc en février, ils l'ont été à Majdanek. Il s'agit de par deux convois, 50-51 du 4 et 6 mars 43, ont été à Majdanek et à Sobibor, dans cette partie à l'est de la d'Auschwitz. Et puis, un seul convoi, en 1944, dont une partie des Juifs qui avaient été arrêtés à Rodez le 22 avril, ont été, eux, envoyés pour être assassinés dans des camps de Lettonie et d'Estonie.
Le bout de l'Europe.
Voilà, au nord, au nord-ouest de la Russie actuelle.
Ouais. Alors, justement, bon, vous l'avez évoqué là, et on le sait d'ailleurs pour la plupart de ces gens, et notamment ces 391 Juifs déportés ayant vécu en Aveyron, le sort pour beaucoup, c'était la mort. Hein. Mais tous ne sont pas morts. Hein, parce que dans ces présentations de famille, de personnalités que vous présentez à travers la liste des communes, bon, on parle de leur vie avant, tout ce que vous savez, leur vie en Aveyron, en France, et puis leur sort, ce qui leur est arrivé. Alors bien souvent, effectivement, c'était la mort, mais pas pour tous. Il y en a un certain nombre qui en est revenu.
Absolument, il y a eu, par chance, oui, je dis par chance parce que c'est le seul mot compréhensible et qui n'a pas d'explication autre que la chance. 33 d'entre eux ont survécu. Alors il s'agit surtout d'hommes, de quelques femmes, qui, lorsque le train les emmenait à Auschwitz pour être exterminés, gazés, en fait, immédiatement, le train s'est arrêté à 80 km avant Auschwitz. Et en fait, à la demande des nazis, ils avaient besoin de main-d'œuvre dans leurs usines, dans des petits camps en amont. Les hommes étaient contraints, les hommes de 18 à 50 ans étaient contraints de descendre pour ensuite aller travailler éparpillés dans ces camps esclavages. Esclavagisme, où beaucoup sont morts, mais en même temps, ils étaient au moins nourris pour travailler, et certains d'entre eux, grâce à cela, même s'ils sont arrivés à la fin, dans des conditions humaines absolument déplorables, ils ont survécu. Souvent malades, souvent très affaiblis, mais ils ont survécu. Ce fut leur chance, et d'ailleurs, les 33 personnes, c'est parce qu'ils avaient été sélectionnés avant pour le travail.
Ces 391 Juifs déportés ayant vécu en Aveyron, on les retrouve sur l'ensemble de la carte de l'Aveyron. Alors évidemment, les plus grandes villes, il y a un peu plus de familles, hein, mais dans des tout petits villages, moi que je ne connaissais même pas, hein, entre nous soit dit, hein, je ne connais pas encore tout l'Aveyron, bah, dans de nombreux tout petits villages, effectivement, on avait une famille qui est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a s'est retrouvé évidemment envoyé en Allemagne à Drancy mourir pour beaucoup. Vous avez eu des surprises vous en effectuant ce travail là, vous imaginiez un petit peu parce que oui à Rodez on imagine bien les gens ils vont dans les villes, bon d'accord, mais se retrouver dans des je vais pas dire des bleds mais des petits villages avec des familles de juifs venus de Pologne ayant passé par la Belgique par Paris pour finir à Auschwitz.
Et effectivement, c'était comme vous. Dès le début, je me doutais, bien naturellement, sinon j'aurais pas commencé ce travail, je me doutais, puisque un écrit dont je me suis inspiré de deux amis historiens locaux, le professeur d'histoire Henri Moiset et Christian Font, avaient déjà commis un ouvrage extrêmement pédagogique à la fin des années 90. De quelques pages, et déjà, le chemin était tracé. En fait, c'est un chemin que j'ai suivi, approfondi et détaillé. Donc, je savais qu'un certain nombre de villages, mais je ne pensais pas autant. Ouais. Alors, ce qui n'est pas, je crois que je ne l'ai pas marqué dans le livre, mais j'en suis, ce serait dommage. En fait, des 61 villages qui ont vu, qui ont été témoins d'arrestations, plus ou moins importantes, 110 villages en tout étaient concernés par l'assignation à résidence.
D'accord.
Il y a eu environ donc même des villages qui maintenant n'existent plus, qui sont devenus, qui ont été accaparés. Je pense à des villages qui étaient autour de Barakville, qui maintenant font partie de Barakville.
Ouais.
Effectivement, j'ai été surpris par le nombre et la répartition. Et en fait, historiquement, une fois qu'on... C'est l'importance des archives, c'est qu'on se rend compte que c'est une volonté à l'époque de la préfecture de consignes envoyées par Vichy d'éparpiller le plus possible les Juifs de façon à ce qu'ils évitent de contaminer la population.
Ah ouais, d'accord. Ah ouais, carrément à ce point-là. Ce livre, alors c'est un... Il y a un aspect travail universitaire, mais je ne veux pas du tout faire peur aux gens qui nous écoutent en disant ça, hein, parce que c'est très bien fait. Ce sont des documents, de l'information, du classement, du tri. C'est un beau travail.
Bon. Merci.
Mais il y a aussi l'aspect, alors je ne sais pas si ça va vous... je vous le dis, il y a quand même un aspect un peu émotionnel. Parce que quand on se balade à la rencontre, à découvrir ces familles, vous mettez des photos, voilà, le mari, la femme, les petits-enfants, souvent ce sont des gens de 30, 40 ans, quoi. C'est des familles comme on en voit. Bon, les photos sont noires et blancs, mais enfin, c'est partout. Et qu'on sait en plus ce qui leur est arrivé, on lit un petit peu le parcours de leur vie, c'est vrai que ça. Excusez-moi, mais ça fait un petit peu quelque chose, indépendamment de la formation que vous nous donnez, du parcours de chacune de ces familles.
Absolument. Voilà. Je comprends très bien ce sentiment. C'est un sentiment que j'ai eu dès le départ. C'était au départ difficile. Je crois, alors c'est paradoxal, et certains, ça va, je comprends, les faire grincer des dents, mais je crois que si il n'y avait pas eu ce confinement lié au Covid, oui, ce qui m'a permis de commencer, et donc cette solitude contrainte, je pense que, compte tenu de la vie qui continue normalement, en dehors de cette période, je n'aurais pas eu assez de cran pour continuer ce travail. Là, par contre, étant plongé dedans, au fur et à mesure, c'est aussi la force de la pensée, c'est que on s'habitue et on prend la distance et on peut écrire à peu près normalement. Alors, quelquefois, n'étant pas tenu non plus à une rigueur sémantique, je me permets de qualifier, au lieu de les appeler les troupes allemandes ou les nazis, j'appelle les barbares. Bon, c'est pas très conventionnel, mais c'est parce qu'à un moment donné, j'en peux plus. Voilà. Et donc, de même que j'évite d'appeler maréchal Pétain, je dis Pétain. Je sais que c'est pas très conforme et pas très courtois, mais ça m'est trop difficile et donc j'ai pas voulu tricher là-dessus.
On va bientôt arriver malheureusement déjà au terme de cet entretien. Simon Masbaum, je rappelle que vous êtes le président de l'association pour la mémoire des déportés juifs de l'Aveyron qui coédite avec une autre association, les fils et filles des déportés juifs de France cette fois. Cet ouvrage, Aveyron, Drancy, Auschwitz 1940-1944, parcours individuel par commune des 391 juifs déportés ayant vécu en Aveyron. D'ailleurs, ce livre, Monsieur Masbaum, où est-ce qu'on peut se le procurer?
Alors, vous pouvez vous procurer dans toutes les librairies aveyronnaises, y compris les maisons de la presse. Certaines ont fait des dépôts-ventes, mais on peut passer par eux. Et puis, si éventuellement, c'est trop difficile, ce que je pense pas, vous pouvez contacter l'association qui se fera un plaisir de vous en adresser un.
D'accord.
Ou plus.
L'association pour la mémoire des déportés juifs de l'Aveyron qu'on retrouve dans n'importe quel bottin.
Absolument.
Je trouve ça facilement. 32 euros, pas cher, j'ai envie de dire, excusez-moi. Je parle un peu de sous, pour les 570 pages et l'ensemble du travail accompli évidemment par vous, monsieur Masbaum. Une petite dernière question peut-être. Alors, vie égale une vie, y a pas de, enfin, en tout cas à mon sens, là-dessus, il n'y a pas de question. Mais dans ces parcours, ces vies dans lesquelles vous êtes rentré à travers ces documents, alors je ne vais pas vous demander s'il y en a une qui vous a plus marqué que l'autre, mais de laquelle vous avez envie de me parler là maintenant tout de suite.
Alors, c'est un paradoxe, mais tant pis, je suis rempli de paradoxes, donc ce sera un de plus. L'histoire de tous ces hommes et femmes, enfants qui ont été déportés, beaucoup d'entre eux n'en sont jamais revenus. Il y a une histoire qui d'ailleurs ne devrait pas figurer dans l'ouvrage, puisque la personne a failli être déportée et qu'elle n'a pas été déportée. En fait, il s'agit de Jaco Saltiel, un jeune homme qui était assigné à résidence dans le sud de l'Aveyron, à Brusque, et qui a été arrêté en février comme d'autres hommes, et qui est parti au camp de Gurs comme d'autres hommes, qui a été ensuite envoyé à Drancy dans le train qui partait vers Paris comme des centaines d'hommes. Et lui, arrivé à Châteauroux, juste avant Châteauroux, il a décidé de s'évader contre l'avis de ses camarades qui craignaient. Il est quand même passé par cette petite fenestre, comme on dit ici. Et il a sauté, il s'est blessé, et ensuite tout son parcours de vie, eh bien, il est dû à la solidarité qu'il rencontre constamment sur son passage. Tout de suite, il est recueilli par des agriculteurs, il fait nuit, qui le logent, qui le nourrissent, qui le soignent, ensuite qui lui indiquent la bonne route à passer. Il se retrouve dans une gare, il y a un contrôle de la police, il passe devant un policier, il n'a pas de papier, le policier le toise, le regarde, le laisse passer malgré tout. Ensuite, à une autre gare, et là il est certain de se faire avoir, c'est un barrage de la Gestapo, juste avant, il voit une jeune fille avec un enfant à les bras, une flopée d'enfants derrière, sans doute une monitrice. La monitrice doit comprendre sans rien dire ce qui se passe. Elle donne l'enfant dans les bras à ce jeune homme et elle lui prend la main, ils traversent ensemble les barrages. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce jeune homme rejoindra la résistance après encore avoir été aimé, c'est pas le mot que je voulais dire, mais il est sorti. Et puis il a rejoint la résistance et il a pu vivre avec. Voilà. Donc, non pas que c'était un choix, mais il a fallu de la chance, il a fallu du courage et puis aussi beaucoup de solidarité.
Oui. D'aide. Merci beaucoup Simon Masbaum pour votre venue dans les studios, bien évidemment, et surtout pour ce beau travail, ce grand travail. Cet ouvrage, je le répète une dernière fois, Aveyron, Drancy, Auschwitz, parcours individuel par commune des 391 juifs déportés ayant vécu en Aveyron. Merci Monsieur Masbaum.
Merci de votre accueil.